Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. La présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen étaient à Ankara aujourd'hui. Le but d'Ursula von der Leyen et Charles Michel, rencontrer le président turc et lui proposer un agenda positif après une année très tendue entre la Turquie et l'Europe. Après les rivalités en Méditerranée orientale, le soutien turc à l'invasion du Haut-Karabakh, la pression sur la question des réfugiés et les commentaires sur la santé mentale du président français, les choses se sont un peu calmées dans la forme depuis le début de l'année. Difficile cependant de parler de bonnes relations évoquées par le président turc. Europe-Turquie, la réconciliation est-elle possible? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, trois invités sont avec nous aujourd'hui dans ce studio. Nous sommes avec Marc Pierini, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes diplomate de carrière de l'Union européenne et entre autres ancien ambassadeur de l'Union en Turquie entre 2006 et 2011. Et vous êtes actuellement chercheur invité à la Fondation Carnegie Europe. Nous sommes aussi en ligne avec Didier Billon, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes directeur adjoint de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS, et auteur du livre « Géopolitique des mondes arabes » aux éditions Erol. Et aussi avec Guillaume Perrier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, reporter, vous écrivez actuellement dans Le Point, et auteur du livre « Dans la tête d'Erdogan », c'est publié chez Actes Sud. Marc Pierini, il y a manifestement de chaque côté une volonté de faire baisser la pression. Est-ce que c'est nécessaire ?
C'est bien sûr nécessaire et en tout cas ça correspond à l'ADN de l'Europe qui a toujours privilégié le dialogue sur le conflit ouvert. Ceci étant, le résultat, c'est un équilibre entre le risque qu'on prend, la confiance qu'on fait et naturellement le risque est très élevé avec Erdogan, tout simplement parce que la tension politique et économique dans le pays est forte, parce que la dégradation de l'état de droit est énorme. Et parce que le président joue son avenir. C'est la première fois en 18 ans qu'il risque personnellement de perdre le pouvoir. Donc il va avoir recours à tous les moyens. Et ça, c'est la difficulté. Et en même temps, il y a les menaces habituelles. Si vous ne m'aidez pas, j'envoie une vague de migrants. Il l'a même écrit dans un éditorial sur Bloomberg le 15 mars, de façon tout à fait explicite. Donc à cette menace correspond une crainte, bien sûr, des intérêts économiques. Et il y a tout un débat, plutôt récent, je dois dire, au Conseil européen, au Conseil des ministres juste avant, au Bundestag, sur quoi dire, quoi faire sur l'état de droit. Et aujourd'hui, Ursula von der Leyen a évité la disgrâce en disant très clairement ce qu'elle avait dit. Ouais. Elle n'a pas dit ce qu'elle avait obtenu, bien sûr.
Ouais. Didier Billon, qui tend la main à qui dans cette affaire? Est-ce que c'est le président turc qui tend la main aux Européens ou est-ce que c'est l'inverse?
Les deux. Nous sommes dans un moment très précis, non seulement parce que les tensions qui ont prévalu au cours de l'année 2020, personne n'y avait à gagner en réalité, même s'il n'y a pas symétrie dans les responsabilités pour comprendre les tensions qui se sont développées. Mais chacun comprend qu'au vu de la situation de la région, chacun comprend qu'au vu de l'importance objective de la Turquie, on ne peut pas rester dans cette situation. Donc les Européens, je pense, ont tout intérêt à renouer des liens plus fluides, plus normalisés que ceux qui ont marqué nos relations très dégradées au cours de l'année dernière. En ce sens, la démarche européenne est tout à fait justifiée et je pense qu'il faut s'en féliciter. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'au-delà des roulements d'épaules de M. Erdogan, il a lui une difficulté qu'il ne mesure pas totalement et dont personne ne peut d'ailleurs mesurer jusqu'où elle peut aller, c'est sa relation difficile ou qui risque d'être difficile avec les États-Unis. Nous savons que pendant le mandat de M. Trump, les relations entre Erdogan et Trump étaient à peu près fluides. Mais aujourd'hui, on sait que Biden est beaucoup plus exigeant sur un certain nombre de dossiers, et notamment la question des droits de l'homme, il l'a répété à de maintes reprises. Et c'est comme par hasard à ce moment que M. Erdogan se tourne de façon plus polie et plus ouverte vers l'Union européenne. Donc lui aussi, il a tout intérêt à renouer un dialogue digne de ce nom, mais pour autant, comme le rappelle Marc Pierini, ce n'est pas aisé, parce qu'on sait qu'il est impulsif, parce qu'on sait qu'il a une forte propension à instrumentaliser nombre de dossiers, donc le dialogue est renoué, pour ma part je m'en félicite, pour autant sachons garder la tête froide, et pour l'instant, rien n'est résolu. Mais disons qu'une porte est ouverte, et ma foi, j'espère que nous pourrons renouer encore une fois ces relations entre les deux parties.
Mais Guillaume Perrier, pourquoi le président turc est moins offensif, au moins sur le plan rhétorique, hein, sur le plan du discours, vis-à-vis des Européens depuis le début de l'année ?
Je crois, comme ça vient d'être souligné par mes deux co-débattants, il y a une nécessité de part et d'autre de renouer des liens entre l'Union européenne et la Turquie. Du côté turc, du point de vue turc, je dirais que c'est quand même avant tout une question économique. Hein. On sait que l'économie turque va très mal ces derniers mois. Et si vous voulez, la dépendance, même si la Turquie essaye d'émanciper sa politique étrangère de l'Europe ces dernières années, sa dépendance économique à l'égard du continent européen reste très forte. Et donc pour rassurer les investisseurs, pour faire revenir les investisseurs, notamment européens, en Turquie, et donc aider, si vous voulez, à relancer l'économie turque, Erdogan a besoin de lancer des signaux de ce type et de montrer d'une certaine manière que ce lien reste indéfectible aujourd'hui. Alors, bien sûr, l'Union européenne, ce n'est pas qu'une affaire d'économie. Et il ne faut pas mettre sous le tapis pour sauver la face dans ces relations un certain nombre de questions qui sont tout autant cruciales et stratégiques pour les Européens, et notamment, évidemment, les questions d'état de droit et les questions liées aux droits de l'homme. Et sur ce plan-là, il faut bien le dire, les intentions de Recep Tayyip Erdogan sont donnent des signes plutôt opposés à celles d'un réchauffement. Il suffit de regarder les dernières semaines en Turquie, le nombre d'arrestations d'opposants politiques, les rumeurs de dissolution du parti pro-kurde, pour voir que la situation de ce point de vue-là ne s'est pas du tout arrangée. Donc il y a effectivement un risque qui est de mettre en sourdine un petit peu les exigences du point de vue européen sur ces questions-là pour essayer de rétablir une relation avec la Turquie.
Alors on va évidemment reparler des questions politiques et intérieures et économiques turques, mais j'aimerais poursuivre avec vous, Marc Pirini, sur la question des relations internationales. L'Europe menace la Turquie de sanctions. Elles sont prêtes, en fait. Hein. Elles ne sont pas encore appliquées. Est-ce que c'est crédible, sachant que les États-Unis de Joe Biden ont clairement demandé de ne pas aller trop loin vis-à-vis d'un pays qui est membre de l'OTAN ?
Oui. Alors, ces sanctions en préparation, elles sont tout à fait minimes. Elles concernent des personnes dans l'appareil gazier et pétrolier de la Turquie. Donc, des gens qui n'ont absolument aucun rôle politique, qui sont des exécutants. Ça ne fait peur à personne dans le système politique turc. Par ailleurs, il faut bien voir que aujourd'hui, la principale sanction contre la Turquie, c'est la politique économique d'Erdogan lui-même et de son ancien gendre quand il était au pouvoir. C'est une politique catastrophique qui décourage les investisseurs, qui décourage les banquiers. Donc ça, c'est la première sanction. La deuxième sanction, qui est à moitié appliquée, en tout cas appliquée au niveau des chefs d'État et de gouvernement européens, c'est de ne pas lui donner trop de visibilité. Parce que c'est la seule chose qu'il recherche aujourd'hui. Il veut quelques milliards, bien sûr, sur les réfugiés. Il va les avoir. Mais ce qu'il veut, c'est de la respectabilité internationale, tout en faisant peur à l'Europe, pour pouvoir dire « Nous sommes attaqués de toutes parts », qui est la rhétorique habituelle d'Erdogan. « Nous sommes aux frontières de problèmes considérables au Proche-Orient et ailleurs. Et donc, je suis le leader indispensable. » Parce que ce qu'il a devant lui, c'est une élection présidentielle en 2023, en principe, s'il la tient, ça c'est autre chose, qu'il ne peut pas perdre, parce que c'est le couronnement de sa carrière. C'est devenir l'égal d'Atatürk, tout en ayant évacué la moitié de l'héritage d'Atatürk. Et en même temps, en octobre 2003, c'est le centenaire de la République qui ne veut en aucun cas rater. Donc le problème pour les Européens, c'est de savoir comment on va traiter avec lui, obtenir ce qu'on souhaite, maintenir un dialogue, sans pour autant voter Erdogan. Parce qu'il est aujourd'hui désavoué par probablement plus d'une moitié de la population.
Ouais. Didier Billon, est-ce qu'on peut imaginer que tout cela soit un peu figé, gelé, jusqu'au prochain sommet de l'OTAN ?
Oui, il y a une corrélation entre tous ces éléments. Et vous savez, la position des Européens est infiniment compliquée. Je ne reprends pas ce qui vient d'être dit, je partage tout à fait ce point de vue. J'ai lu avec attention le rapport qu'a rédigé le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et qui a été présenté au dernier Conseil européen il y a quelques jours. Ce document est assez complet, assez exhaustif. Il n'apprend pas grand-chose de nouveau. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que, hein, il y a une volonté véritablement de renouer les liens et qu'il y a évidemment une large partie de ce rapport qui est consacrée à la politique dite agressive de la Turquie dans la région. Alors on parle de la Syrie, on parle de la Libye, on parle évidemment de la Méditerranée orientale, de Chypre, etc. Tout ça sont des dossiers qu'il nous faut aborder. Il faut mettre ces dossiers sur la table parce qu'à ne pas se dire les choses, on risque de ne rien régler du tout. Mais pour autant, ce qui me frappe, c'est que la posture de ce rapport, c'est d'être assez critique à l'égard de la politique et des initiatives de M. Erdogan. Bon, bah ça, ma foi, on peut l'entendre éventuellement, on peut en discuter. Mais la faiblesse des Européens, c'est que sur la quasi-totalité de ces dossiers, ils ne sont pas d'accord entre eux. Et ça, ça nous met dans une position de faiblesse par rapport à M. Erdogan. Nous avons évoqué les sanctions qui, à ce jour, ne sont que très symboliques. Mais nous savons très bien que, notamment le président Macron, à plusieurs reprises, a eu une politique assez offensive, pour ne pas dire agressive, à l'égard de la Turquie et de M. Erdogan lui-même. Mais cette agressivité était ô combien partagée et souvent à l'initiative de M. Erdogan. Mais le problème, c'est que les demandes qu'avait formulées M. Macron n'ont pas été reprises par l'ensemble des pays membres de l'Union européenne, parce que nous savons qu'il y a des désaccords, notamment, pas seulement, mais notamment entre l'Allemagne, Mme Merkel et M. Macron, qui n'ont pas la même approche dans la façon de traiter avec la Turquie. Donc ça, c'est une faiblesse qui vient des propres rangs de l'Union européenne. Et évidemment, dans ce type de situation, Erdogan en profite largement, il en use et il en abuse. Mais c'est de bonne guerre, si vous me passez l'expression. Et c'est là aussi la difficulté que nous avons. Mais c'est pourquoi je crois que la démarche qui a été accomplie aujourd'hui par deux des principaux dirigeants européens est positive. Mais pour autant, ne croyons pas que les choses peuvent se régler comme par un coup de baguette magique, parce qu'encore une fois, nos divisions, les divisions européennes, eh bien, M. Erdogan les comprend parfaitement et il sait les utiliser, ce qui rend bien sûr difficile de mener un dialogue constructif et serein.
Guillaume Perrier, vous évoquiez, et on a évoqué là, assez largement depuis le début de cette émission, les difficultés, notamment économiques, de Recep Tayyip Erdogan au plan intérieur. Est-ce qu'il a des difficultés politiques également ? Des alliés encore plus extrémistes que lui, qui seraient assez encombrants, par exemple.
Non, mais l'économie et la politique vont de pair, évidemment. Pendant très longtemps, l'économie a été le principal atout de Recep Tayyip Erdogan, ce qui lui a permis d'être aussi populaire dans les urnes. Et aujourd'hui, de fait, c'est devenu un obstacle à sa popularité de fait, puisque la population turque est confrontée vraiment à des difficultés très sérieuses, en tout cas uniques depuis 20 ans. Donc effectivement, cette période est aussi celle de l'apparition d'une nouvelle opposition, d'une nouvelle forme d'opposition. Et d'ailleurs, regardez ce qui s'est passé ces derniers jours avec cet avertissement, hein, de 104 amiraux publiés dans la presse turque et qui a retenti en Turquie vraiment comme un coup de semonce. On sait que les coups d'État, les rumeurs de coups de force de la part de toute ou partie de l'armée interviennent toujours dans des périodes de troubles politiques, économiques, dans des périodes où il y a des règlements de compte au sein de l'appareil d'État. Et en ce moment, cela tend à montrer en tout cas des dissensions au cœur du pouvoir entre, les islamistes traditionnels, ceux de l'AKP, ceux qui sont les fidèles de Recep Tayyip Erdogan depuis une vingtaine d'années, et puis cette aile nationaliste, souverainiste, très anti-occidentale, hein, qui l'a soutenue depuis 2016, depuis la tentative de putsch, et qui a accompagné aussi cette politique étrangère très expansionniste, hein, de la Turquie, notamment en Méditerranée, mais pas uniquement. Et aujourd'hui, donc, cet avertissement des amiraux lié à la remise en question de la convention de Montreux. Hein, vous savez que cette convention de Montreux qui date de 1936 est extrêmement importante pour la sécurité de la Turquie et notamment d'Istanbul, puisqu'elle elle régit le passage des navires par les détroits turcs. Et donc remettre en question cette convention, c'est une sorte de ligne rouge pour la sécurité de l'État, en tout cas telle qu'elle est perçue par les militaires, par une partie des militaires. Et donc ça, aujourd'hui, ça peut amener à une remise en question des équilibres politiques internes, parce que ce projet de canal, on le sait depuis très longtemps, est un projet sujet extrêmement important pour Recep Tayyip Erdogan d'un point de vue économique, d'un point de vue financier et d'un point de vue symbolique hein, pour asseoir encore un peu plus son pouvoir.
Marc Pierini, je vous posais une question qui, dans sa forme en tout cas, n'est pas du tout, ou pas trop en tout cas, je pense, dans l'esprit communautaire. Après tout, pourquoi les Européens ont besoin de relations plus apaisées? L'offensive turque en Méditerranée orientale, elle s'est arrêtée depuis quelques mois. La vente de Rafale français à l'armée grecque, ça a aussi joué. Et manifestement, Recep Tayyip Erdogan, il a baissé un tout petit peu le volume.
Disons qu'il n'a que sa politique agressive n'a rien obtenu. L'Europe a résisté quand il a envoyé 6000 migrants sur la frontière avec la Grèce. Il y a eu une réaction très virulente et immédiate. L'Europe a résisté quand il y a eu les opérations de forage, etc. Et puis maintenant, nous avons en Libye la perspective d'un processus de reconstruction politique et militaire du pays qui va peut-être mettre un peu la Turquie sur le côté. Le problème que l'Europe a avec le président Erdogan, c'est que sa politique, qui est celle d'une autocratie, est très difficile à gérer pour des démocraties, bien sûr, parce qu'il maîtrise tous les leviers, il fait dire ce qu'il veut à la presse, il fait dire ce qu'il veut aux juges. Donc très difficile pour des chefs d'État et de gouvernement européens responsables devant leurs électeurs de jouer ce jeu-là. Et en même temps, le président turc est empêtré dans des contradictions. Cette affaire des amiraux, qui est une tempête dans un verre d'eau, pour dire la vérité. Le principal auteur de cette lettre est l'amiral Gudanir, qui est l'auteur de la patrie bleue, la doctrine qui sert à Erdogan pour s'aventurer au-delà des limites actuelles dans la Méditerranée
orientale. La patrie bleue, c'est pour justifier l'expansion en mer Méditerranée
voilà.
orientale.
Alors, la Turquie a certains points qui ont une
bleu logique. Comme la mer, voilà, pour le dire très clairement.
La position turque a une certaine logique, mais cette théorisation de la patrie bleue, il est allé la chercher chez des officiers kémalistes absolument opposés à lui. Et pourquoi le pouvoir est-il tellement enragé contre ces malheureux retraités? Tout simplement parce qu'il y a quelque chose dont on ne parle pas du tout dans la presse, qui est qu'une des phrases de cette déclaration des amiraux, c'est « Nous sommes opposés à l'introduction de l'islam dans l'armée ». Et vous savez que dans l'armée turque, depuis l'année dernière, il y a une autre direction des affaires religieuses. C'est ça qu'il faut. Et c'est bien sûr ça qui a créé l'ire de M. Erdogan.
Didier Billon, qu'est-ce que vous voulez ajouter là-dessus?
Oui, sur l'affaire d'une tempête dans un verre d'eau, je suis assez d'accord. Je pense que tout cela va rentrer assez rapidement dans l'ordre. Là, Erdogan a fait beaucoup de déclarations en disant que cette pétition était le symptôme de la préparation d'un coup d'État au vu des purges qui ont eu lieu dans l'armée depuis la véritable tentative de coup d'État en 2016. Je ne crois pas que ce soit véritablement à l'ordre du jour. Mais je suis assez d'accord pour dire qu'il y a un autre aspect qui n'a pas été suffisamment relevé, c'est la question de l'islam, puisque nous savons qu'un des amiraux en exercice a été vu et s'est fait photographier dans une cérémonie au sein d'une confrérie islamique. Donc tout cela, évidemment, pose un véritable problème, c'est la place de l'islam au sein de l'armée. Mais ce que je voudrais dire, surtout, c'est sur la politique de la Turquie dans la région. Je pense que, notamment sur la Méditerranée orientale, véritablement, la rhétorique agressive, belliqueuse de M. Erdogan, qu'il a notamment utilisée en 2020, au milieu de l'année 2020 et jusqu'à l'automne, ne sont pas acceptables. Et là-dessus, il fallait faire preuve de fermeté. Mais pour autant, il y a le fond de l'affaire. Or, si l'on regarde une carte de la région, qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas laisser de côté la Turquie, qui est quand même un des pays importants de la Méditerranée orientale, à l'écart des mesures de prospection et d'exploitation du gaz naturel. Donc il y a là une difficulté objective sur le fond et indépendamment de la forme que les déclarations de M. Erdogan ont prises. Donc j'essaie toujours de distinguer la forme condamnable du fond qui nécessite là une discussion. Alors je ne sais pas si cela a été abordé aujourd'hui lors de l'entretien avec M. Erdogan, je le souhaite en tout cas. Là non plus, ça ne se réglera pas en une fois. Il est absolument nécessaire et impératif que nous, Européens, nous puissions nous projeter en positif, tenter de jouer les go-between, pour parler en bon français, de façon à ce que toutes les parties intéressées à l'exploitation des hydrocarbures, et notamment du gaz naturel en l'occurrence, puissent se réunir autour d'une table et négocier. Je ne crois pas qu'on puisse passer par perte et profit le fait que la Turquie aujourd'hui n'ait pas accès à des gisements. Cela n'est pas acceptable. Et comprenons bien, pour terminer, que la rhétorique de M. Erdogan, encore une fois, aussi déplaisante soit-elle, c'est pas nouveau. Moi, j'ai retrouvé des déclarations d'un de ses lointains prédécesseurs, c'était M. Özal, Turgut Özal, qui, à la fin des années 80, sur les mêmes questions, mais c'était avant même qu'on découvre les gisements de gaz, utilisait aussi des expressions très guerrières, menaçant même la Grèce de rentrer en guerre. Donc vous voyez, cette question, elle n'a jamais été réglée, elle est évidemment exacerbée par la découverte des gisements de gaz, ça rend encore plus compliqué de la résoudre, mais de grâce, ne faisons pas de surenchère, ne nous placerons pas sur le même terrain rhétorique que M. Erdogan et prenons nos responsabilités en termes de propositions. Parce que s'il ne les accepte pas, alors il se retrouvera seul. Et je pense qu'aujourd'hui, au vu de ce que nous avons évoqué tout à l'heure de ses relations avec les États-Unis, de ses relations à l'OTAN, il n'a pas intérêt à se retrouver seul et donc il doit saisir les propositions que nous lui formulons. En tout cas, c'est ce qui est souhaitable.
Guillaume Perrier, pour comprendre la position de quelqu'un, il faut parfois se mettre à sa place et ça tombe bien puisque vous avez écrit un livre qui s'appelle « Dans la tête d'Erdogan ». Pour revenir à un autre sujet, la Turquie estime que l'Europe n'a pas payé ce qu'elle devait dans l'accord sur les migrations et sur les réfugiés. Est-ce que c'est vrai, vous qui connaissez bien la Turquie et la politique intérieure turque sur place ?
Non, il me semble que c'est pas tout à fait exact. D'ailleurs, Marc Pirini en avait longuement fait la démonstration il y a quelques mois, me semble-t-il. Il s'agit surtout d'abord d'attribuer des marchés publics. Hein. Il y a des appels d'offres puisque cet argent n'est pas versé directement à l'État turc, mais à des organisations qui viennent en aide aux réfugiés syriens sur le sol turc. Donc je crois que c'est là aussi dans un verre d'eau et une volonté de polémiquer sur l'accord. Mais si vous voulez, l'accord en lui-même, de toute façon, était polémique. Et je crois que dès le moment où on a mis les migrants dans la balance dans ces négociations entre la Turquie et l'Union européenne, le verre était déjà dans le fruit. Et aucune négociation saine entre les deux parties ne peut aboutir en ayant cette question-là en filigrane. Non, je crois que dans les relations, il y a évidemment, comme le soulignait Didier Billon à l'instant, une nécessité d'aplanir un certain nombre de conflits. Alors, effectivement, dans le fond, il y a des choses à régler, hein, mais encore une fois, et comme on l'a dit tous depuis le début de cette émission, Erdogan tire sa force des faiblesses de ses adversaires. Donc, les périodes de négociation, d'apaisement comme celles que l'on traverse actuellement lui servent d'abord à jauger son adversaire et ensuite à taper là où ça fait mal. Donc la question des migrants est une question sensible pour les Européens avec des divisions selon les pays et Erdogan sait qu'il peut parfaitement exploiter cette faille. Il y a d'autres questions. Hein. La question de la Méditerranée est effectivement une question à régler collectivement et sur laquelle les États européens ne sont pas d'accord. On peut citer Chypre hein, dont on n'a pas parlé. Effectivement, quand on parle, je dirais, de négociations difficiles entre la Turquie et l'Europe dans cette zone de la Méditerranée orientale, ça remonte à 50 ans. Donc voilà, effectivement, rien de neuf sous le soleil. C'est effectivement des dossiers de fond qu'il faut traiter en partenariat avec la Turquie. Maintenant, il y a un aspect dont on n'a pas parlé et qui me semble assez évident après cette visite de ce soir, c'est que finalement, la Turquie n'est plus considérée, n'est même plus traitée comme un pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne. On a l'impression que Bruxelles et Ankara se parlent comme des voisins. On est dans une politique de voisinage avec la Turquie, on n'est plus dans une politique d'adhésion. Et donc, il n'y a plus vraiment de discussion sur, encore une fois, les normes démocratiques et économiques qui sont celles de la Turquie aujourd'hui. Voilà, et je trouve que c'est quand même un changement de cap assez notable.
Oui, vous me devancez, parce que j'allais poser la question à Marc Pirini. Marc Pirini, est-ce qu'il y a encore des Turcs qui croient à l'adhésion de leur pays à l'Europe ? Est-ce que c'est un levier qui est encore utilisable ?
Je dirais que les démocrates de Turquie veulent y croire parce qu'ils savent que la négociation d'adhésion est la seule qui puisse faire progresser l'état de droit en Turquie. Ceci étant, il y a eu deux phases dans l'exercice du pouvoir d'Erdogan. Pendant un peu plus d'une dizaine d'années, il a joué le jeu de l'adhésion. Une fois qu'il a obtenu ce qu'il souhaitait au départ, c'est-à-dire la fin d'un rôle politique de l'armée grâce aux critères politiques de l'Union européenne, et qu'il a été élu président en 2014, il a rangé l'adhésion au placard parce que tout le reste, c'était des contraintes par rapport à son concept de démocratie, ce qui est purement autocrate et pas démocrate. Donc aujourd'hui, il garde l'adhésion comme levier de pression sur l'Union européenne. Vous voyez, vous me l'aviez promis encore en septembre 2015, Donald Tusk à l'époque, président du Conseil européen, j'ai rempli tous les critères. C'est faux, bien sûr, mais bon, dans une autocratie, on peut dire ce qu'on veut. Et on ne progresse pas. Mais en réalité, il n'en veut pas. Donc ça, c'est le piège que l'Europe s'est infligé à elle-même. Guillaume Perrier a raison. Ce n'est plus d'actualité et ça ne le sera plus tant qu'Erdogan sera au pouvoir. Après, on verra. Mais j'ai beaucoup de doutes. Je pense qu'on est passé à autre chose.
Oui, Didier Billon, ce n'est plus d'actualité parce que la relation de la Turquie aux règles de l'état de droit, eh bien, elle est très compliquée, on va dire, très, très lointaine et de plus en plus lointaine.
Deux éléments. Je m'appuie sur une étude, non pas sur un sondage, une étude qui a été menée par une fondation en 2019, donc ce n'est pas très lointain, et il apparaissait, c'était assez surprenant, que 60% des Turcs étaient encore favorables à la perspective de l'adhésion. 35% étaient défavorables. Mais dans la même étude, et ça c'est très intéressant, 77% des sondés qui avaient eu des entretiens considéraient que la Turquie ne parviendrait jamais à en faire véritablement partie de l'Union européenne. Vous voyez, il y a une attitude un peu schizophrénique. On est pour cette perspective pour une partie de la population, mais en même temps, on a l'impression qu'on a intériorisé le fait qu'on n'y parviendra jamais. Alors, moi, je fus, il y a quelques années, un partisan affirmé de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Mais aujourd'hui, ça ne sert plus à rien de s'obséder par le terme d'adhésion. Je peux toujours descendre dans la rue avec un panneau en disant adhésion, 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 ça ne changera strictement rien. Donc je pense que le véritable objectif aujourd'hui, c'est de réanimer, de refonder la relation avec la Turquie. Alors à partir d'un certain nombre de dossiers très précis, je ne sais pas si on aura le temps de les aborder ou d'en aborder quelques-uns,
il reste peu de temps, effectivement, des
liens d'intérêt communs. Je pense que les Européens ont intérêt à normaliser leurs relations avec la Turquie et réciproquement. Donc c'est à partir d'un certain nombre de dossiers qu'on pourra refonder une relation. Mais le terme d'adhésion aujourd'hui, je crois, n'a plus guère de sens parce que les négociations d'adhésion existent encore officiellement, mais de facto, elles sont totalement gelées depuis plus de 4 ans, près de 5 ans désormais. Donc il ne faut pas se gargariser de mots. Je pense qu'il faut être réaliste, poser sur la table donc un certain nombre de dossiers d'intérêt commun, mais aussi de divergence, de façon à ne pas rester, comme disait Guillaume tout à l'heure, à la situation de voisin, mais de reconstituer une relation de partenaire. C'est très différent, c'est compliqué, ce n'est pas un chemin pavé de roses, mais c'est ça véritablement l'objectif et la responsabilité des parties en présence.
Guillaume Perrier, il vous reste un peu plus de 30 secondes. Est-ce qu'on peut, jusqu'où on peut aller sur ce chemin-là?
Ah bah c'est le délicat exercice de la diplomatie, hein. C'est un équilibre savant. Non, bah écoutez, jusqu'où on peut aller, ça chacun doit en fixer les limites, évidemment. Maintenant, je crois que ce qui est encore une fois notable, c'est qu'il est effectivement temps de clarifier cette relation qui doit être assainie, pacifiée, et il est surtout temps de, je pense, d'arrêter les messages à double sens comme celui que pose quelque part cette visite à Ankara aujourd'hui, parce que effectivement l'adhésion n'est plus vraiment une priorité ni à Bruxelles ni à Ankara, mais ça n'est pas le message, je trouve, qui est délivré après cette visite.
Merci Guillaume Perrier, merci à nos autres interlocuteurs, Marc Pirini qui était avec nous en studio et Didier Billon au téléphone. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Emmanuel Sevin à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Mathieu Douxamy. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur les réseaux sociaux, sur nos applications mobiles ou sur notre site internet rfi.fr. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.
Appelez-nous, exprimez-vous. Juan Gomez.